Bonjour à tous et bienvenue dans Comment c'est loin, l'émission Nostalgie qui revient sur vos albums favoris du rap français. On a déjà fait des épisodes focus sur une année précise, comme l'épisode spécial 2015 qu'on vous invite à aller écouter, mais aujourd'hui on a décidé de viser plus large avec un épisode focus non pas sur une année, mais sur une décennie entière. Et aujourd'hui on commence par la première, les années 90. Pour ce faire, je suis avec l'homme qui a extrêmement bon goût car il sait reconnaître le génie du morceau Tokodombi de Théodore, Maël Fouché est avec moi, comment ça va ?
Ça va très bien, au final à la réécoute, en vrai c'est juste sympa.
Quoi ? Justement à la réécoute, je pense que c'est un classique universel.
Ouais, mais par contre, ça, oui, c'est sûr, ça, je pense que ça va sépère, mais...
Je pense que ça a déjà un peu sépère, quand même.
Je sais pas du tout, mec, j'ai pas regardé l'histoire.
Ouais, moi j'ai regardé un peu, ça marche bien. Et bien sûr, l'homme au comble du bonheur, car après tant de mentions dans cette émission, il va enfin pouvoir parler de la 36 Mafia, monsieur Amazir Amadein Guest, comment vas-tu ?
Ça va très bien, enfin frère,
enfin. Ça y est, tu vas pouvoir... te lâcher.
Ouais, bah.
Totalement. Ouais. On fait des petits écarts. Vous l'avez compris aujourd'hui, on va commencer par partir à Memphis avec le cultissime Chapter 2 World Domination de la 36 Mafia. Puis on viendra en France, tout d'abord dans le sud, à Marseille avec le premier album d'Akhenaton. Et on finira en remontant sur Paris pour l'ultime classique Opéra Puccino de Oxmo Puccino. Sur ce, on s'écoute Light Night Cheap, de la 36 Mafia. Et on se retrouve juste après.
Just hit me on that late night chill.
I can't understand
music. Hypnotizing coup, I tell you who, I'm about to lose it. Could it be the late night crew that just inside the party? Always kinda lonely, someone want me hold me. I say, come here, come here, come here, the coup start crying tears. I can't think positive when no one cares of how I feel. Relax my mind, so tired that I even try to fight.
Light Night Chip de la Trisex Mafia sur l'autre radio, issu du projet Chapter 2 World Domination. Amaz, c'est bien évidemment ton projet que tu as choisi pour représenter un peu cette année, cette décennie des années 90. Déjà, explique-nous qu'est-ce que la Trisex Mafia et pourquoi ce projet.
Alors déjà, la Trisex Mafia, c'est tout simplement un des groupes les plus légendaires de toute l'histoire du rap. Donc, originaires de Memphis, ils se sont formés autour de 91-92. Donc, initialement autour de DJ Paul et Juicy J. Mm. Ensuite, on a d'autres membres qui sont arrivés, donc Kupsta Nika, Gangsta Boo. Pardon ?
Lord Infamous.
Lord Infamous, il était là vers le début, lui aussi. du coup, la chat aussi. Et il y a énormément de gens qui gravitent autour du groupe sans vraiment en faire partie. La composition du groupe, au fur et à mesure des années, il devient de plus en plus bordélique et incompréhensible. Ouais. Voilà, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, des gens qui arrivent. On a un Project Pat qui est avec eux tout du long, mais qui fait pas partie du groupe, mais qui est là quand même. C'est un peu le bordel, ce groupe. Et pourtant, ça a créé. Ils ont réussi à créer une des musiques les plus, comment dire,
iconiques,
les plus iconiques et les plus influentes en fait de tous les temps. C'est notamment les pères de la trappe, tout
clairement,
simplement.
c'est
ce que Pablo il m'a dit quand il a écouté l'album, c'est de la trappe. Mais tout simplement parce que avant que c'est des mecs comme Gucci Mane, Jeezy, T.I. Qui viennent inventer, on va dire, le terme trap music du coup vers le début des années 2000. La fondation même de cette musique, elle vient de Memphis, elle vient de la Trisex Mafia.
Et tu vois, mais en fait, ce qui me fait péter un câble, c'est que je me dis, mais attends, il y avait déjà ça à ce moment-là aux USA, mais à quel point on était en retard, tu vois.
Genre, je me dis, les deux albums qu'on va parler après, ils sont sortis en 95.
95, 98.
Ouais. Et c'est pas la même vibe.
C'est pas la même vibe. Mais je me dis, pour te couper après, je te donne la parole. Mais juste, je me dis, mais genre, je sais pas, je trouve ça dingue que nous, ce soit vraiment à la fin des années 2000 que ce soit arrivé, qu'il y a un creux de 10 ans pour qu'on arrive à avoir ces sonorités en France, quoi.
Bah, ça, c'est déjà beaucoup dû au fait que, aux States, du coup, à cette époque, dans les années 90, il y avait New York. Qui régnait en maître, voilà, c'était... Et encore, il y a eu un petit inversement des
tendances. LA, début 90, c'était plus LA, je crois.
Oui, c'est vrai. Mm.
Mais il y avait quand même cette bagarre entre justement les deux, il n'y avait pas d'autre place pour autre chose, quoi.
C'est ça. Et du coup, la musique du South, elle a commencé à se développer pendant les années 90, et en vrai, elle est devenue nationale aux États-Unis plus vers le début des années 2000.
Ouais.
Donc, tu vois, avec les grosses têtes d'Atlanta qui ramènent la trap music. Mm. Et surtout, un peu avant quand même, avec tout ce qui est les Juvenile, tout le label Cash Money, donc Lil Wayne, les Big Timers et tout. On a eu, aussi du côté de Houston, notamment un peu le truc qui symbolise le fait que le rap du Sud commence à percer et que... L'Amérique commence à s'y intéresser au niveau national. C'est genre UGK qui feat avec Jay-Z sur Big Tippin. Voilà, ça c'est le moment où la musique du South, elle a commencé à émerger. Mais du coup, à ce moment-là, là où ça sort Chapter 2, World Domination, donc qui est le 2-3e projet officiel de la Trisex Mafia. Même sur ça, c'est bordélique, c'est super dur de s'y retrouver. Ouais. Parce que aussi, ils ont des noms, des projets sous le nom de Tears the Club Up, Tugs. On a des compilations qui sortent un peu de partout, qui sont pas forcément sur les plateformes et tout. Du coup, c'est assez dur à recenser, mais je le considère comme ouais, le 2-3e projet. Donc après leur cultissime premier projet, Mystical Styles et The End. Mais du coup, The End, je sais pas si c'est vraiment un projet très officiel ou quoi, ça, j'ai jamais compris. Voilà, bon.
Okay.
Je me perds là-dedans, mais la question, pour y revenir de base, c'était pourquoi j'ai choisi ce projet.
Ouais.
Et bah parce qu'il fallait choisir un projet de la Free Six Mafia.
Okay.
Sur les années 90, j'étais sûr que j'allais les prendre. Et après, fallait juste trouver lequel. Et bah, parmi tous les projets que j'avais à ma portée, tiens d'ailleurs c'est 97 pas 95 pardon.
Oui, ok.
C'est moi qui dis 95.
Ok, ouais.
Du coup, ça pas été facile, mais pour moi, le projet le plus iconique, le plus marquant, c'est celui-là en fait.
Okay.
Tout simplement parce que tu regardes la tracklist, c'est classique, 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 classique. Et on a cette musique de Memphis, elle n'a pas vraiment de nom, c'est vraiment ouais, la Free Six Mafia type shit, je sais pas comment dire, voilà. Je trouve que c'est là qu'elle s'affine vraiment et qu'on la retrouve telle qu'on la retrouve après chez d'autres artistes de Memphis qui seront venus récupérer un peu tout ça. Et du coup, voilà. Donc, pour revenir sur l'album en lui-même, comme je l'ai dit, c'est que des classiques. Et on peut mesurer l'impact juste là, tu vois, de tête. Par exemple, on a du coup Tear the Club Up, qui est un classique ultime, qui a été repris par Travis Scott dans No Bystanders en 2018. On a dans Je sais plus quel son, un flow qui a été repris bien des années plus tard par A$AP Rocky. Et en fait, tu vois, c'est que des petits moments et tout, que des tu. Ça aussi, c'est très important. Ça a été repris dans un milliard d'albums par la suite. Et en fait, cet album, ce qui m'impressionne, c'est que tu l'écoutes encore aujourd'hui, il est toujours aussi digeste et toujours aussi intéressant à l'oreille. Alors que tu vois là, par exemple, sur des AKH ou des Oxmo, dont on va parler juste après, je trouve que les projets sont beaucoup moins digestes. Enfin, tu vois, il y a toute une lourdeur en plus.
Il y a les morceaux qui sont plus longs et en fait aussi, il y a le truc francophone et la manière de rapper, de phraser qui est tellement différente d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus, entre guillemets, soutenu. On cherche le bon mot, le bon truc, un truc qu'on ne cherche plus du tout aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Mais toi, moi, ce sentiment que t'as, tu vois, je pense, sur cet album-là, moi, c'est un truc que j'ai sur... sur genre La Fierté des Nôtres de Rof, pour moi, ça a pas pris une ride.
Ouais,
le projet est bad, non, il y a du déchet, tu vois. Mais sinon, sur qualitativement les morceaux, etc., même si c'est de la boom bap, et bon, bah, c'est marqué année 2000 dans ce sens-là. Ouais. Mais sinon, ça passe ultra bien, je trouve.
En fait,
y a pas de...
ouais, c'est quand ça reste accessible à peu près à toutes les époques. C'est comme Première Consultation de Doc Gineco, je trouve que c'est un truc, c'est sûrement des albums de rap français qui vieillit le mieux parce que bah, c'est juste le mec parle comme on parle encore aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment pas différent. On pourrait le sortir aujourd'hui, ce serait pas déconnant, tu vois. Alors que cet album là bah tu fais bah non, c'est des albums des années 90.
Il pourrait fit avec Rachida Dati maintenant, c'est...
Non mais du coup voilà, c'est un très grand album classique sur classique d'absolument partout. On a au niveau des gros classiques, on a 3-6 in the Morning, Gun Clap, Late Night Tip, qui est sûrement dans mon top 10 morceaux de tous les temps. Parce que voilà, la prod, c'est juste...
Dingo.
C'est juste incroyable. Voilà, faut mettre l'accent quand même sur les productions de DJ Paul et beaucoup de Josie J aussi. C'est juste incroyable. Et puis voilà, pour finir cette petite rubrique... j'ai envie de dire quand même important, REP Coupe Stanica, REP Gangsta Boo, REP Lord Infamous, très important. Ah oui, et aussi, il fallait que je revienne, ça m'a fait penser Lord Infamous. C'est quand même aussi, ce groupe, c'est la naissance du Triplet Flow, qui est du coup le flow qu'ont repris les Migos bien des années plus tard, mais du coup qui est devenu un flow très important, on va dire, dans le hip-hop et qui a créé un nombre de trucs incroyables dans tout le sud.
Mais du coup, ouais, c'est vraiment un album un peu vraiment charnière, un peu pilier dans, sur plein d'aspects. Et alors, je vais enchaîner du coup. Moi, c'est, je me le suis pris de baiser. Je connaissais pas du tout. Et en fait, déjà, rien que l'ambiance un peu sombre du disque, où, tu sais, dès le début, ça commence sur un truc très cinématographique, où tu les entends parler, tu rentres dedans, mais d'une manière, je trouve ça dingue. On est plongé dedans. Et il y a toujours un grain, en fait, sur toutes les productions, je trouve, qui te transporte. Et il y a même un truc, bon, je trouve qu'il y a une ambiance un peu Halloween, mystérieuse, slash Scooby-Doo. mais je sais pas comment le dire, tu vois.
Ouais, je vois la vibe que je veux dire.
Tu vois la vibe que je veux dire. C'est pas du tout négatif. Comme sur I Ain't Chaffriends. Enfin, je trouve que, mais qui rend juste trop bien et qui est un peu...
Une petite tension goofy, quoi.
Exactement. Qui est vraiment hypnotique, en fait. Et en fait, oui, c'est pour moi, là, c'est le gros atout du disque. Qui plus est, avec en fait tout le toutes les nouveautés qu'il apporte. Enfin, c'est ce que je te disais du coup en antenne, Sherman, mais j'étais choc-bar en mode, mais waouh, c'est, j'écoute un album de 97 là, j'écoute pas un album genre de 2007. Genre, c'est, je trouve ça dingue, toutes les enfin, le truc vraiment années 2000 dans les prods, avec cette avec vraiment une énergie vraiment très semblable à la trap. Enfin, tu sais ce que je disais, de toute façon, c'est les pères de ce truc là. Je pense à un morceau comme Hill Them Up qui est phénoménal. Pareil, enfin, il y a une ambiance, c'est pas une ambiance que je veux dire. Il y a tout un truc en fait qui se faisait pas à l'époque. Je pense, par exemple, les morceaux, ils sont globalement pas très longs, genre ils font 2-3 minutes. C'est ça que c'est, ouais, qui fait que, ouais, ça s'écoute très bien alors que c'est 22 titres. C'est parce que bah, ça s'enchaîne vite et c'est pas du tout lassant. Tu feras, il y a le troisième couplet qui est chiant. Non, ça passe très bien. Pareil, le délire par exemple de voix saturée sur Gun Claps, c'est presque inédit, je pense, pour l'époque. Ce mec-là était dans le futur. Enfin, je trouve que c'est n'importe quoi. Voilà, après, il y a aussi. Les membres, tous les, je trouve un truc qui est fou, c'est parce que du coup, en écoutant l'album, je regardais un peu également sur Genius,
ouais,
qui rappait à quel moment.
Et tout, ouais.
Exactement. Et je trouve qu'en fait, tous les membres sont vraiment performants et ils ont tous leur singularité et pourtant ils sont beaucoup, quoi.
Ouais.
Par exemple, déjà, le fait d'avoir une meuf dans le groupe, une personne de Gangsta Boo, je trouve ça dingue, tu vois. Genre, souvent, c'est un peu à part les meufs, les gars, il y avait déjà eu des groupes de meufs dans le rap, mais tu vois, genre, une meuf aussi intégrée dans un groupe comme ça, tu vois. Je sais pas, je trouve ça trop bien. Et surtout qu'elle est pas ridicule.
Ouais. En plus, l'histoire, elle est super drôle. Genre, de base, tu vois, la Free Six qui commence à faire un peu de bruit et tout, gna gna gna, dans Memphis. Et à cette époque-là, Gangsta Boo, elle était au lycée, ou au collège, je crois. Je crois qu'elle était au collège, elle avait genre 14 ou 15 piges. Et en fait, elle a commencé à raconter à tout le monde qu'elle faisait partie du groupe.
Ok.
Et alors qu'elle mentait, mentait de fou. Et en fait, elle le répétait tellement à tout le monde et tout, que bah...
Elle était obligée de montrer que...
qu'au final, les membres du groupe, ils ont fini par en entendre parler.
Okay.
Et qu'au final, elle a intégré le groupe.
C'est génial.
Parce
c'est
qu'ils
génial.
Ont dit, bah ouais, tu rappes bien.
Ok. Putain, c'est dingue.
Ouais.
C'est trop bien. Et, mais ouais, il y a elle qui est super forte, qui a beaucoup d'attitude. T'as Juicy G, où c'est... je trouve le mec qui a le plus de flow du crew.
Et Juicy J, de 2023, il a sorti un album
okay,
incroyable. Juicy J, en 2011, il sortait des classiques. Juicy J, en 2015, il sortait des classiques. Juicy J, en 2006, il sortait des classiques.
En 97, il sortait des classiques.
En 92, il sortait des classiques. Juicy J, c'est un très, très, très grand homme
grand monsieur,
de la
ouais.
musique.
DJ Paul, je trouve que c'est un peu le mec goofy qu'on appelle un peu pour faire les refrains. Koopsta Knika, c'est un peu le mec bizarre dans ses interprétations, je trouve.
Ouais.
Et puis t'as Lord Infamous, moi c'est mon préféré, c'est le mec qui découpe, qui arrache tout.
C'est lui le grand inventeur du triple.
Ça se voit, et lui il ressort direct, il a ce truc vraiment un peu une posture de leader, je trouve,
qui
marche trop bien. Et en fait ils sont tous forts et tous intéressants. Et après voilà, il y a pas mal de sons que j'ai bien aimés. Par exemple typiquement le morceau 3-6 in the morning, où c'est juste une prod très cinématographique, guerrière, avec juste Lord Infamous en solo qui découpe, je trouve que c'est très fort.
Classique
ultime. Katie Top, le son qu'on a écouté, c'est pas Katie Top, je sais plus exactement.
Late Night Tip,
Late Night Tip, pardon, qui est qui ressort de l'album, je trouve, parce qu'il n'y a pas trop de sons vraiment mélancoliques, et lui, il est un peu le seul dans ce registre-là, et je trouve qu'il coup, il ressort, et en plus avec la prod, comment, c'est envoûtant, c'est génial, et par contre, bon, il y a des trucs que je comprends un peu moins, typiquement le morceau Type Prophet Prophecy, où l'intro, le refrain à moitié, il est beaucoup trop long, je trouve, ça répète Prophet Prophecy de Pussy Beach pendant 5 minutes, c'est interminable. Alors, je trouve là vraiment on se fait chier, mais c'est genre un des seuls sons où il se passe ça, quoi. Et sinon c'est classique, genre classique, bluffant. Maël, qu'en as-tu pensé?
Vous avez déjà dit beaucoup de choses que je partage, et ce que je pensais, en fait, moi c'est un truc qui nous avait fait tu nous avais fait écouter Mobb Deep aussi, et en fait c'est ce genre de projet où en fait un truc ricain, mais genre les classiques ricains, je les ai jamais pris le temps de les écouter, tu vois. Exactement. Et t'as des tracks en mode oh, ça vient de là, ça! Banger, tu vois.
Mais Mobb Deep, ça restait quand même dans l'ADN boom bap.
Ah oui, oui, non, de fou, ça.
Très ancré dans
musicalement, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est juste dans le truc de. Ouais, enfin, je découvre d'où viennent les classiques.
Je suis d'accord.
Des trucs que t'entends partout en fond de films documentaires ou trucs dans
exactement,
le genre, tu vois.
Ouais. De fou.
Ah, ok, yeah. Et tu m'as pas fait un nom sur le truc? Et ben, en fait, je trouve que c'est juste le World Domination, c'est.
C'est le terme
certified, c'est accompli, c'est bon. C'est un réel banger, et tu vois les bases de plein de choses, et même si sur certains trucs tu vois que c'est des tests, c'est un peu tâtonnant, tu vois, ça tente des trucs et en fait ça marche, ça donnait ce que ça a donné après, comme tu l'as expliqué, c'est de grosses percussions, tu vois, et c'est le projet, je l'ai vraiment bien pris, ça écoute très bien, je vous mens pas, je l'ai pas écouté 4 fois non plus. Mais il y a des trucs que tu prends dans la gueule, quoi. Enfin, même quand tu disais toute l'ambiance, tout le truc dans quoi ça te plonge, c'est assez fou. Et en fait, je trouve ça assez fou que de créer un truc aussi gros, aussi terminé et aussi fini, alors que tout le reste du pays fait une autre musique peu près similaire un peu partout.
C'est dingue.
Il y a des différences entre New York et LA, tu vois, t'as quand même un truc, tu vois. T'as quand même des identités qui sont posées, tu vois, et là t'as un truc totalement différent qui sort et qui ils arrivent à s'isoler dans leur tête et à enlever toute autre influence, et je trouve ça assez fou, quoi. Et gros banger, je sais pas citer des sons parce que vous en avez déjà cité beaucoup, mais c'était incroyable d'écouter ça en vrai et de se dire vraiment un peu comme Pablo que ça date de 95, quoi. Enfin, 97, pardon, quoi, tu vois. Mais banger, moi je pense, si je mets une note, on est sur 20 hein, dans cette émission.
Ouais, on est sur 20.
C'est un classique, quoi. C'est le genre de truc, c'est compliqué de mettre en dessous de 18, quoi. Vous en dites quoi, vous?
Moi c'est 20.
Moi je vais suivre mal 18 parce que c'est quand même 22 titres et il y a un ou deux sons que je comprends pas trop.
Oui.
Mais c'est le top du top, quoi. C'est dingo, ça va se retourner.
Dans ce qui se fait de mieux.
Voilà, exactement.
Imagine, t'influences, je sais pas moi, genre de Chief Keef jusqu'à la. Comment ça s'appelle là? La funk d'Incel là. imagine. Tu remontes le truc, bah les deux, c'est en haut, c'est la Free Six. Ouais.
C'est exactement ça. En 1995, IAM est devenu le groupe bankable du rap français après avoir fait danser toute la France avec Je danse le Mia 2 ans plus tôt. Avec le premier double album de l'histoire du rap, Ombre et Lumière en 93, le troisième opus est encore très attendu en 1995 et pourtant c'est le moment qu'on choisit tous les membres pour partir en solo. DJ Kéops en 97 avec Sad Hill, Shuriken un an plus tard avec Où je vis et Akhenaton dès 1995 avec Metakemat. Alors, est-ce que ce solo est à la hauteur des autres albums d'IAM? On vous donne notre avis juste après avoir écouté Prométhée.
Au début, il y avait la terre, la mer et le ciel, des forêts verdoyantes et des rivières de miel, des fruits d'or poussés sur les arbres, la vigne s'enlaçait discrètement sur des colonnes de marbre où nichaient des oiseaux de toute espèce dans un balai sans paternel. C'était une pièce mise en scène par un maître parfait, et dans ce tableau l'homme fut élevé. On racontait que si d'Éden fut l'écrin de ce monde établi, l'humain devait être le rubis qu'il avait sorti. Peut-être à sa première heure, lorsqu'il n'avait pas peur des choses qui meurent, le bonheur était une somme de choses simples, d'une vie dans un état appelé harmonie. L'homme prospérait, le monde embellissait, dans cette ère de paix, le roi s'appelait Prométhée.
Prométhée, Prométhée. De rien, protégé de Dieu et respecté par les siens. Mais une nuit dans ses rêves, Eblis se visita et lui demanda:
Dieu est-il plus fort que toi?
Lui offrit un coffre renfermant tous les malheurs. Elle lui insuffla la haine et l'envie dans nos cœurs. Le lendemain fut le premier jour triste sur la terre. Prométhée assassina son propre frère. Elle lui ravit ses biens, enleva son épouse, réduit en esclavage les tribus au nombre de 12. Il leva une armée forte et robuste pour gouverner d'une manière cruelle et injuste. Se croyant immortel, il fit tuer tous ses fils qui un jour auraient pu se soulever. Il fit bâtir une tour élevée jusqu'aux cieux. Armé de son arc, il partit faire la guerre à Dieu. Prométhée, Prométhée. Prométhée. Prométhée, Prométhée.
Son premier album solo, Metek Kemat, sorti en 1995. C'est moi qui ai choisi cet album du coup pour cette année, ces années 90, pour cette décennie, qui n'est pas forcément l'album auquel on pense le premier quand on pense classique rap français années 90, mais qui en est un, globalement, qu'un album qui est resté avec le temps et qui a su marquer quand même son temps, notamment parce que c'était quand même un des premiers albums solo d'un mec issu d'un groupe quoi, de base, qui faisait son truc. Et ça symbolise vraiment l'époque d'IAM, à l'époque où, bon, on va dire de 93 à 98, où ils sont à leur prime, et où ils sortent, que ce soit avec IAM ou en solo, que des classiques, même le premier solo de Shuriken, celui de Sad Hill, enfin bref, Ombre et Lumière, L'École du Micro d'Argent, bref, que des dingueries, et c'est là où ils sont à leur apogée en termes de production, en termes de tout. Et cet album, du coup, il s'ancre un peu dans cette période-là, et il symbolise également le premier solo, du coup, qui intervient, comme je l'ai dit, après Ombre et Lumière en 93, et avant L'École du Micro d'Argent en 97, du coup, entre le deuxième et le troisième album. Et c'est un solo très autobiographique, où AKH fait notamment beaucoup de références à ses origines italiennes, tout en exprimant des points de vue, une vision bien plus personnelle que sur les albums d'IAM. Et en fait, là, tu te dis qu'il a tout compris d'un album solo, parce que c'est vraiment différent de ce qu'ils font en groupe. C'est absolument pas la même énergie, et c'est beaucoup plus personnelle. On retrouve notamment, je trouve, déjà une ambiance à l'album qui est très chill, posée, très méditerranéenne, du coup.
Solaire.
Très solaire, très en lien, sans que ce soit dansant, hein, bien sûr, mais très, très en lien avec, du coup, la Méditerranée, avec ces influences-là, l'Italie, tout ça, et qui est très, très, très agréable. Et dans le propos, je trouve qu'on a vraiment aussi ce côté un peu du I Am de l'époque, donc, c'est-à-dire des deux premiers albums, ce côté drôle, côté marrant, avec des morceaux comme... Je suis peut-être également, oui, éclater un type des acédiques. Je suis peut-être qu'il y a une sorte de c'est l'inverse d'un ego trip où il se dit juste c'est n'importe quoi.
Ouais, son éclat.
Ouais, j'avais justement ça.
Genre, mec, je passe derrière les affiches.
Il dit, je dirais pas jusqu'au point de dire que ma bouche est vraiment minable, non, simplement décapotable. Mon dentiste est formel, il évalue les travaux bigre. Pour le gros œuvre, il vaudrait mieux appeler Bouygues. Enfin bref, il se tacle tout seul et je trouve ça génial. Juste, mais à la fin, il te dit quand même, bon, par contre, au micro, je vous baise. Et du coup, il y a globalement une très bonne ambiance, une chaleur qui se dégage de ce projet-là que moi j'aime beaucoup. Et après, si je reviens un peu sur les sons que j'ai bien aimés, alors il y a la Cosca du coup qui est le morceau d'intro qui est original. Enfin, tu commences ton album par un storytelling qui n'a rien à voir, enfin alors, c'est lié à sa vie mais pas directement.
Bah ouais, en vrai j'ai pas capté quand j'ai lancé l'album, je me suis dit pourquoi il raconte des histoires de mafia italienne et tout.
Vraiment, la première fois que j'en sais, je fais qu'est-ce que tu fais là, de où il part. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant, enfin tu le mets pas en intro en général quoi. Mais ça te plonge quand même dans ce truc là, c'est quand même bien produit tout ça. T'as Le Calme comme essence, qui est vraiment un morceau qui transmet, je trouve, une belle philosophie dans lequel personnellement je me retrouve avec le côté très chill et reposant. T'as Je ne suis pas à plaindre, pareil, qui est dans la même lignée, un morceau très relativiste sur un tempo chaloupé avec un fond de saxo sur le refrain qui donne ce côté voilà, très relaxant, très solaire au morceau. Mais Tek et Mat, le titre éponyme qui traite du racisme qu'ont subi les métèques pendant des générations. Donc il parle des métèques d'origine italienne pour son cas et maghrébine, donc en gros la Méditerranée en somme. Il dit même à un moment « Je suis un de ceux qu'Hitler nommait nègre de l'Europe ». Et en fait, c'est une référence, je ne savais pas du tout. À Marseille, il y avait des bandes qui tabassaient des nazis et tout. Et du coup, Hitler...
C'est extrêmement différent.
Et Hitler les appelait comme ça, quoi. Je ne savais pas du tout. Et voilà. Il y a « Au fafond du contré », qui est un des morceaux les plus touchants d'Akash, d'ailleurs. C'est un des titres les plus mélancoliques qui donnera d'ailleurs le Akash mélancolique de la fin des années 90. En fait, ce morceau, il symbolise un peu la transition entre le I Am marrant, entre guillemets très léger, du début, et le I Am plus sérieux, c'est-à-dire Sol Invictus, ce deuxième album, et L'École du micro d'argent, où là, on va plus dans le mélancolique, les thèmes un peu plus sérieux. On a la face B, qui est vraiment un morceau morceau performance du disque, où il raconte sa vie, sa rencontre avec le hip-hop.
Même chose, justement, je trouve que c'est une très bonne référence, même de... En fait, je pense vraiment que sur le vinyle, c'était le premier morceau de la face B.
Ah ouais.
Et je pense que c'était... En vrai, c'est une grosse référence au vinyle, la musique.
Ouais,
même,
clairement.
C'est
clair,
la face B pour le rap de...
Ouais, exactement. Je viens de là,
Là, de faire une performance, ça fait le truc très freestyle.
Ouais,
en fait,
exactement.
La face B, c'est sur quoi tu poses un freestyle normalement. Ouais. Et je trouve ça, c'est vraiment chouette d'avoir fait ça.
Et il marche très bien, ce morceau-là. L'Americano, c'est son rapport à l'Amérique qui évolue au fil des années. Et il y a Bad Boys de Marseille également, alors qui est intéressant parce que du coup il y a deux versions. Il y a la première version qui est sympa, qui s'intègre bien dans l'album mais qui est pas folle, et t'as la deuxième version qui est incroyable, qui est un putain de tube. Et en fait, c'est parce qu'en fait la première version de base, lui, il est en mode ouais, ça va être le tube de l'album, c'est là il ramène la FF, c'est là qu'on découvre la Funky Family et tout, un autre groupe de Marseille, et en fait ça a pas marché pour les radios, tout ça. Du coup, il a fait une réédition où ils ont fait une deuxième version, ils sont à la New York et tout. D'ailleurs, ils ont fait un clip. Pour moi, c'est un des meilleurs clips du rap français. C'est à New York, c'est magnifique, c'est en mode gangster. Enfin, c'est genre trop, trop stylé le clip. Et je trouve la deuxième version marche tellement mieux. Et c'est celle-là qu'a tourné, il a réussi à tourner après avec. Et puis, il y a Prométhée, du coup, le morceau qu'on a écouté, moi que je trouve dingue. C'est un morceau storytelling encore là qui est vraiment en plus sur l'histoire de la genèse de l'homme, voilà tout ça. Mais je trouve la prod limite un peu cloud, tu vois, genre à son niveau, tu vois, très envoûtant, le storytelling qui te transporte, enfin bref, le refrain, je trouve très fort ce morceau là et voilà. Alors moi j'aime surtout le début de l'album et la fin, je trouve qu'il y a quand même un ventre mou au milieu. Je trouve que le must est vraiment au début et à la fin, mais voilà, pour moi c'est un ultime classique. Je trouve que c'est une référence dans les albums solo et surtout dans les années 90. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire, j'ai beaucoup parlé. Maël, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce disque-là? Est-ce que tu connaissais déjà avant? Je sais pas.
Je connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais écouté, parce qu'en vrai, le titre m'énerve de fou. Je suis désolé, mais...
Ok.
Juste le truc échec et mat, mais t'es qu'à mat, ça m'énerve.
Ouais, je peux comprendre. Après, ça s'inscrit dans les années 90, toi, mais ce truc plus candide...
Oui, non, je sais bien, mais juste... Ça m'énerve. Mais non, je ne l'ai jamais écouté. Et Real Banger, en fait, tu... C'est super, super chill, très solaire, comme on a dit tout à l'heure, changeant sur beaucoup de choses là-dessus. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont restés plus datés, comme dans Je suis plein à plaindre, le chant. Attends.
Ouais, le refrain.
Ouais, le refrain, vraiment, le refrain daté années 90, on invite la meuf, on la crédite pas, c'est très bien.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça se voit non plus qu'elle, c'est pas son métier pour autant, tu vois, ça s'entend un peu.
Ouais.
Et c'est juste ce genre de trucs-là qui sont un peu plus datés, mais il y a des sons vraiment cool, je trouve. Kenaton a toujours été très fort en storytelling et tout ce qu'il a fait marche très bien. Et bon, après, moi, j'ai énormément pris, du coup, encore ces morceaux un peu marrants qu'il y avait. Que tu as déjà cité, comme éclater un petit peu des acédiques, ou c'était quoi ?
Je suis peut-être.
Je suis peut-être, voilà. Et ouais, mais je suis d'accord aussi que j'ai pas compris l'intro Mafia, surtout que j'étais, je sortais du coup d'écouter Opéra Puccino, je dois de est-ce que le projet est fini ? Il y a un film que je n'avais pas vu. Et ouais, en fait, on sait pas trop ce que ça fout là, mais tu sens quand même cette influence, en vrai, sur la décennie, genre, encore une fois, je l'ai dit, je sais plus si j'ai dit en off ou en live tout à l'heure, mais on a pris trois projets dans les années 90, les trois parlent de mafia, quoi.
Ouais.
C'est et donc on voit l'influence des films genre Scarface, etc. Et c'est, je trouve ça assez intéressant, en fait, de voir comment ça a découlé, surtout que c'est pas le côté vraiment méchant et gangster qui ressort, mais plus classe.
Ouais,
là,
c'est pas le truc tu ragages, mais c'est plus le truc complot derrière.
Ouais, enfin, vraiment truc classe, les grands costards, bien, exactement. Tu vois, c'est pas. C'est pas le truc sale, quoi. Et ouais, non, ça pue le sud, ça pue la Méditerranée, ça fait du bien, quoi. Limite, tu sens le Mistral dans tes cheveux.
Exactement.
Et c'est très, très acoustique aussi. Il y a énormément d'instruments où ça se sent que c'est joué, quoi. C'est
je crois,
très agréable. T'as des petits trucs, ça fait presque de la Manu Chao sur Saint-Pinçon, tu vois. Mais c'est super. Enfin, je sais pas, je trouve c'est.
C'est super. Je crois que l'album a été fait en Italie, à Naples. Je
okay.
crois.
Banger. Ça doit influencer un peu.
Ouais.
Et réel banger. Après, le reste, on l'a dans l'ensemble dit. J'ai laissé Amazir terminer.
Et vous avez dit pas mal de trucs. Après, moi, je voulais revenir. Du coup, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un projet assez indigeste. Et après. C'est un peu différent de quand on le dit d'habitude, ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que le morceau, l'album, j'ai du mal à y rentrer, genre les 3-4 premiers morceaux. C'est à partir de Metek et Matt que vraiment, tu vois,
je peux comprendre. En fait, je trouve qu'il est mal, il est mal rangé.
Il est mal,
il est mal rangé un peu.
Ouais, c'est peut-être ça, ouais.
Enfin, ouais, la Koska, tu vois, commencer par un storytelling de quoi ? De 6 minutes, un truc comme ça, sur la mafia italienne et tout, en intro, ça te fout un truc dans la gueule, frère. Mais, tu vois, à partir d'à peu près Metek et Matt, après, t'as les acédiques, qui est un morceau que je kiffe, qui s'enchaîne. Là, tu vois, j'arrive à enfin bien rentrer dans le projet. Et à partir de là, tu vois, tu te laisses porter, c'est cool. C'est doux, il y a des moments, c'est un peu plus énervé. Et en vrai, moi, une de mes plus grandes peurs, c'était le flow d'Akhenaton. Le tu vois, genre, en vrai...
Très vieillot.
Ouais, en vrai, ça m'a pas tant fait chier que ça, en fait. Tu vois, j'avais vraiment trop peur de m'ennuyer.
Mais je trouve qu'on le sent pas tant. Je pense que c'était aussi, lui, plus porté par les prods, peut-être, tu vois.
Ouais.
Qui sont un peu plus, je sais pas, lancinantes. Et du coup, peut-être que ça se sent moins, quoi.
Je pense qu'il faut être quand même un auditeur un peu avisé de cette époque-là pour vraiment se prendre le truc. Parce que si t'écoutes vraiment que des trucs actuels et tu tombes sur ça, c'est trop différent.
Ouais.
Tu vois, le flow, la manière de parler, c'est quand même... Je crois qu'il va vraiment faire une actualisation, je trouve, avec l'école du micro d'argent, où son flow marche très bien encore aujourd'hui. Mais là, il est encore dans un entre-deux avec ce qu'il faisait sur Ombre et Lumière, où c'est vraiment... C'est spé, quoi. C'est sa voix, c'est son truc. C'est pas classe. De toute façon, Akhenaton n'a jamais été classe. Hein. C'est vraiment... juste, il écrit très bien, il rappe très bien, mais tu vois, c'est pas...
Pas classe, mais fin.
C'est pas Lord Infamous. Mais fin, oui.
Ouais. Mais sinon, pour le reste, vous avez à peu près tout dit. Hein. Une ambiance incroyable, c'est très organique, très méditerranéen. Plus là, il y a deux semaines, j'étais à Marseille.
Tu m'étonnes. Mais ouais, ça joue de ouf, là, du moment où tu l'écoutes. Tu vois, parce que moi, je l'avais écouté première fois, je crois que c'était il y a peut-être 2 ans en Espagne. Genre, tu sais, en marchant dans une ville, je sais plus c'était où. Mais bref, tu vois, d'avoir le truc méditerranéen en même temps, bah, genre, je pense que ça joue de fou aussi.
Ouais, d'avoir le cadre de...
D'avoir le cadre de l'album et tout.
C'est très vrai. Mm. Sinon, ouais, voilà, c'est... j'ai à peu près tout dit, je pense.
Ok. Et du coup, je voulais rajouter que, oui, du coup, ce côté méditerranéen, machin, je trouve que c'est un truc qu'on a vraiment pas retrouvé, cette ambiance-là, dans d'autres albums du rap français. Alors, il y en a peut-être d'autres, bah, je me trompe. Mais je trouve que c'est un truc un peu unique à ce disque-là.
Pas comme ça, en plus.
Enfin, ça se voit que c'est travaillé, que c'est ses origines, il a envie de...
Que, tu vois, je pense, en vrai, pour moi, c'est ce que Naps essaye de retransmettre maintenant, tu vois. Mais en vrai, hein. En ça.
Ah ouais?
Non, c'est en soi, c'est, c'est la kiffance, mais il kiffe pas pareil, c'est juste ça.
Ouais, bien
sûr. Il kiffe la même chose, mais pas de la même manière, du coup, il le montre pas de la même manière.
C'est plus, ouais, je suis d'accord.
Et c'est plus ça, parce que là, tu vois, je trouve qu'il y a un truc un peu très. Ces traditions, les anciens quand même, le respect, plus le truc de. Bah, s'il pouvait pas être en ville, il serait pas en ville, tu vois, il serait dans les montagnes corse et il serait très bien, tu vois. Alors que bah Nab, c'est qu'il voit pas ça comme ça à Marseille, tu vois. Mais c'est pas vu de la même manière. Mais je pense que c'est un peu la même chose, ce truc de ce soleil, ce vent, ce truc, cette ambiance. Et mais voilà.
Ok. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Alors comme note, c'est compliqué à noter, je trouve. Moi, je mettrais quand même un bon 17 sur 20. Je trouve. Alors même s'il y a, parce que c'est le ventre mou qui va forcément coûter des points, mais sur le reste, je trouve ça. Très réussi de bout en bout, quelques peut-être erreurs au niveau de la tracklist, mais sinon c'est un très un classique, quoi. Faut le dire.
Un classique en effet. Moi je mettrais un petit 15 quand même.
Ok.
Parce que ouais, vraiment j'ai beaucoup de mal à chaque fois que je le lance à rentrer dans l'album.
Ouais.
C'est un peu relou.
Oui,
mais
moi
après,
j'ai plus me mettre.
Une fois que c'est passé, c'est
ouais,
bon.
Pareil, parce que vu que l'intro est tellement bizarre, j'ai peut-être plus me mettre les sons que j'aime bien plutôt que relancer tout l'album.
Tu fais une playlist, tu fais ta tracklist à ton ordre à toi.
Exactement, ouais.
Moi j'ai 115 aussi, je pense que c'est un peu la même chose. En vrai, il y a plein de sons que tu peux très bien mettre en playlist, un peu de chill, machin. Mm. Mais après, c'est plus la construction de l'album en lui-même, ouais, je suis assez d'accord que c'est. Mm.
Après, ça vient de notre conditionnement par rapport à la musique
évidemment.
Aussi. Nous, on a 21 piges. C'est toute une manière différente de faire. Maintenant, on consomme énormément plus, il y a énormément plus de trucs qui sortent et tout, donc forcément
la perception n'est pas la même.
Exact.
Je capte. Je vous propose qu'on reste avec Akash pour le prochain projet, mais qu'on fasse un petit bond dans le temps de 3 ans, puisqu'on va retrouver le vieux père de Marseille sur un autre classique, celui d'Oxmo Puccino, Opéra Puccino, véritable œuvre d'art pardon, qui a su traverser les générations sans perdre une ride. Le premier album d'Oxmo est donc sûrement dans le top 5 des albums de rap les plus influents de l'histoire du rap français. Je vous propose qu'on se plonge dans l'ambiance avec un des deux storytelling de l'album, alias John Smoke, et on débat de ce chef-d'œuvre juste après.
Mon Bouygues sonne, le boss, nouvelle mission. Comme toujours, c'est le top secret d'obsession. Donc je mets mon survêt white et tous ces gadgets. La blanche casquette de mon pote Bacardi, Mike. Ma smoke mobile avec mes fausses locks. Direction le lieu du crime, des films prennent en photo. J'arrive dans la boîte de mille lointaines. Plein de pointeurs qui font coin, coin, coin. Enfin, faut au moins dans l'heure. Ici les jupes sont tellement courtes qu'elles sont hautes. Et souvent, on lève les mains en criant en haut. Faut que je trouve la bombe avant qu'elle pète. Ou le boss va se fâcher, ça fera 7. Fois ce mois-ci, j'y vais 8 minutes par toute la nuit. T'es fou, voici la série Zouk. Nous savons tous qu'il y a un temps pour tout. Donc je prends ma pause, Nelly m'approche et me dit: j'suis ta chance, ton billet bingo, vas-y frotte ma smoke. Donc je la frotte et découvre que c'est pas le gros lot. Pendant ce temps, mon bionique œil gauche grille hétéro. Risque, j'essuie de l'œil sans trop risquer. Ma vie, j'grille leur secret quand ils s'arrêtent près du bac à disque. Les mises de mes ennemis me kiffent. Déchire ma chemise, sniff mon temps, c'est ma pelle. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Posté devant le bac à disque, j'enlève les disques. Il analyse la bombe comme ton compte par un gars du fisc. Mission désamorcer le truc. Spoof, pour
trouver le bon bouton quand je le touche. Hein,
150,
à mon avis, j'ai réussi, même si c'est faux, je m'en fous, je m'en vais. Je prends mon veston et je m'en vais.
Au moment où je taille, haï mes épaules, mon dos. Hop là, cascade cop, Jean-Paul Belmondo. Ils sont gros et trop fâchés. Qu'un tas d'assassins qui l'ont cassé, jouet qui tue en masse. Donc débute le combat de fond. 3 tractions, 5 abdos. J'entre en action, 360 les bras écartés, j'ai 5 éclatés. Avec deux crânes, je fais casse-noisette. Pendant que mon pied droit frappe trop fort comme dans les films chinois. Wow. C'est type au sol, je rigole pas, j'en prends un, j'essuie le sol. Le con décolle et atterrit sur ses 30 potes. Il me reste 40 secondes, moi le combat. Mieux que James Bond, soit 30 secondes pour que la bombe saute. Je suis John Smoke, faut que je stop tout. Mission spéciale, maquillant, Renoir, Chouan ou Babou. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. À la sortie on m'intercepte, c'est le boss. Poseur de bombe, loser, son nom c'est Billy, belle caisse, Mercedes. Belle aise à la main, promet la mort comme un homme politique. Hey Bill, 10 minutes ton débit naze. Bon tiens, 10$, paye-toi la Libye, 3 limonades. Pendant qu'il boit, tu me vois me sauver. Je veux pas être là quand la chose explosera. Je suis John Smoke, alias Mo Green, alias Hawks.
Alias John Smoke de Oxmo Puccino, issu du classique Opéra Puccino. Maël, c'est toi qui as voulu parler de cet album-là pour cette décennie. J'ai cru comprendre que c'était un gros album pour toi. Qu'est-ce qu'il représente un peu?
Bah, en fait, moi j'adore cet album, j'adore... C'est storytelling, ce truc, toute cette ambiance aussi, parce qu'on a encore une fois un truc mafia du coup. Mmh. Un truc beaucoup plus nocturne, beaucoup plus... Ouais, en fait, tout le projet est assez... Enfin, totalement nocturne, quasiment, en fait. Il y a du monde de la nuit, on parle du monde de la nuit, du monde de la mafia, de la violence, d'amour aussi, sur certains sons. Et aussi de pas mal de sociétés, notamment avec l'enfant
seul
qui exprime en fait un peu tous les espoirs que n'ont pas plein d'enfants qui naissent déjà un peu dans la merde, quoi. Mm. Et je trouve ça assez intéressant, mais par contre, en vrai, à la réécoute, je trouve que c'est un gros bordel, ce projet. Genre, ouais, je trouve qu'il y a de tout, en fait, il y a des gros storytelling de 5-6 minutes. Mm. T'as un morceau funk à la fin avec Karine,
ouais.
Tu sais pas pourquoi, oui, mais il est là. Enfin, mais sinon aussi, je pense que vous voyez le mème de Nekfeu, ah ouais, t'écris du rap.
Lequel?
C'est faire rimer des trucs de merde, tu sais, le mème de Nekfeu où il écrit là.
Ouais.
Ah, je pense Oxmo il aurait pu le taper, hein, parce que
non,
je trouve qu'il y a des trucs
pas dire que c'est
en fait,
pas pareil.
En fait, il est très fort, il est très fort, mais il y a des trucs il max, tu vois, genre.
Ah, mais c'est parce que c'est l'école time bomb.
Ah oui, mais je suis d'accord.
Et pour moi justement la différence avec plein de gens, c'est qu'en fait genre, lui ça raconte à chaque fois quelque chose de fort, quoi.
Ah, ouais, mais genre tu vois genre le refrain peur noire rime amère à mourir de rire, franchement c'est fort d'écrire, de ça marche, la littérature marche, mais t'as l'impression c'est...
Après, tu le remets dans le contexte, à l'époque c'était nouveau,
ah oui,
c'était
évidemment.
En mode wow, le mec
mais
a mis
là je parle à
un peu la technique
la réécoute.
Et tout. Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi, par contre, technique d'écriture, etc., multisyllabique, etc., c'est très très fort. Et puis il y a surtout le truc aussi de. Il a un truc de. Enfin, je trouve qu'il contre son. Il a un peu un cheveu sur la langue, Oxmo. Hein,
ouais,
pas
clairement, bon, clairement.
Et tu vois, par exemple, pour un parallèle avec un autre gars de l'époque qui a un cheveu sur la langue, on a Shuriken qui était un peu dans le même cas.
Shuriken? Non, c'est Akhenaton d'avoir un cheveu sur la langue.
Oui, Akhenaton, pardon, ouais. Surtout dans les débuts, on l'entendait. Et je trouve justement que Oxmo, c'est ces accentuations qui te fait oublier ça, tu vois, qui te fait passer beaucoup plus...
Son interprétation aussi.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Enfin, ces accentuations, ces interprétations, etc., qui te fait beaucoup plus oublier le truc. Et bah, on a des énormes classiques comme « Qui peut le nier ?» comme comme Hitman, comme Peur Noir aussi, surtout que en fait c'est, il faut se rendre compte que cet album est influent au point où franchement genre les prods de Peur Noir, de Qui peut le nier, etc., c'est des prods la moitié du rap français actuel a posé dessus,
ouais,
un moment ou un autre pour faire un freestyle,
les fameuses prods des Planète Rap, quoi.
Ah, mais vraiment, quoi. Et c'est assez affolant, quoi. Et vraiment, je trouve que c'est un. On a le feat du coup aussi avec Akhenaton dont tu parlais. qui est 24 heures à vivre, qui est aussi, en vrai, je trouve super intéressant, même dans le thème.
Avec Pete Bacardi, avec Peter Freeman, Freeman,
c'est ça, et Laura Luciano. Et je le trouve super intéressant dans, en vrai, le thème abordé, ouais, dans le truc dingue. De chacun. Enfin, du coup, bah, c'est vraiment qu'est-ce que ce mec ferait leur dernière 24 heures, tu vois. Et t'as 5 visions différentes de trucs il veut être avec sa mie, il faut essayer de faire des gosses ou machin. Et t'as les autres, c'est je braque une banque. Et je trouve ça super intéressant, les différences de point de vue qu'il y a. Ouais. Et aussi, en fait, ça montre que je trouve aussi de trucs de. Je trouve ce morceau a un truc de. Le crime, c'est juste un manque d'espoir, en fait. C'est juste quand t'es dans le désespoir et que t'as rien, c'est là où t'en arrives, tu vois. Et puis on a d'autres super feats, du coup. Un super feat, surtout avec Lino, je trouve.
Ouais.
Et
enfin.
Et Lino, je trouve, on n'entend pas encore son gros truc de voix rocailleuse.
C'est un moment où il est encore jeune. C'est un moment d'arsenic, c'est la même année arsenic. Oui, il est encore. C'est le jeune Lino, quoi. Ouais. Il n'a pas encore ce truc.
Très rocailleux.
Ouais, c'est ça.
Et non, je trouve que ça marche trop bien.
Je kiffe ce Lino là. Je trouve qu'il est encore plus vivace.
Je suis d'accord avec toi.
Plus,
ouais. Il fait plus fluide, quoi.
Ouais,
agile.
Plus énergique. Parce que
plus agile, ouais. Et sinon, ouais, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, mais ouais, je trouve que bon, le projet est un peu long, c'est un peu le bordel. Il y a des sons, tu sais pas ce qu'ils font là, tu comprends pas trop l'ordre. Je trouve que c'est un peu pareil que dans le truc l'album d'Akhenaton, t'as des non-storytelling, t'as une histoire qui veut être placée, mais t'as l'impression qu'on la finit vraiment jamais. Je trouve que t'as peu de points de rattache. Dès le début, on se lance dans un truc, ok, là c'est la mafia, on te fait des interludes entières où ça parle au téléphone, machin. Et en même temps, t'as un moment, t'as l'impression au milieu, tu lâches ce truc-là et t'y reviens à la fin. Et
Oxmo, c'est vraiment le bordel parce que lui, vraiment, sur cet album-là, alors classique, hein, mais genre, il y a deux, dont le son qu'on a écouté, il y a avec Hitman, il y a deux sons vraiment storytelling et c'est un peu les seuls. Et tu ne sais pas pourquoi ils sont là dans le projet. À côté, sinon, c'est des morceaux plus durs, plus l'enfant seul,
plus
tout ça.
Athématique.
C'est
quoi.
Athématique. Et après, t'as un tube. Enfin, tu sais, ça part un peu dans. Tous les morceaux sont bons, hein, mais. Il manque peut-être, je sais pas, un truc plus ligne directrice.
Ouais, c'est ça un peu. Genre, ça lance un fil et tu l'attrapes par moment, mais pas tout le temps. Et c'est un peu ça qui m'a dérangé à la réécoute. Mais il y a toujours autant de classiques dans ce projet comme il y a des trucs que je vais pas réécouter, quoi.
Ok, ouais.
Voilà, donc je sais pas ce que vous avez à dire là-dessus.
Amas, c'est quoi ton avis là-dessus ?
Eh ben écoute, j'ai beaucoup aimé. C'est un projet que j'avais écouté... il y a maintenant très longtemps, et que j'ai un peu foutu sur le côté, tu vois, que j'ai jamais trop... que je me suis jamais trop remis dans les oreilles, et putain, c'est bon comme projet. Mais je vais continuer sur ma critique de l'indigestion. Là, tu vois, trouve que c'est un projet, t'arrives aux deux tiers, t'es essoufflé et tout... Et là, on te met les pires morceaux.
Ah ouais.
Ouais. tu vois... C'est en vrai, après 24 heures à vivre, tu vois, tu commences à un peu souffler. Les sacrés samedis soirs, le jour où tu partiras, premier feat avec Karine, je le trouve ok.
Ouais.
Le deuxième, je le trouve calamiteux.
Moi, je trouve que c'est un bon tube, j'aime bien.
mais le premier, il est cool, tu vois. Mais genre, du coup, tous les sacrés samedis soirs, le jour où tu partiras, sortilège et mensongeur. Là, c'est...
Ok.
On souffle. Mais par contre, après, t'as la loi du point final qui revient te remettre la patate. Et la fin de l'album, elle est super.
Donc, je suis d'accord avec toi. Tout un bout où tu te décolles. Et...
Ouais.
Sans trop savoir pourquoi.
Et c'est un peu dommage, tu vois, surtout sur un album aussi long où t'as, du coup... plus, là, les morceaux, ils font 15 minutes chacun. Je sais pas, tu perds peut-être 20-25 minutes d'album... que t'aurais pu enlever en vrai et c'est dommage.
Ok.
Mais sinon, c'est un très très bon album. Je suis tombé amoureux du titre Hitman.
Hitman, trop bien.
Trop fort, frère. Genre j'aime bien le côté un peu... Bam, coup de poing là.
Mais même... putain, j'avais noté, mais je sais plus sur quel morceau c'était. T'as un morceau où t'as des coups de feu, je crois que c'est sur Hitman justement, où t'as des coups de feu, etc. C'est calé rythmiquement, moi ça me fait kiffer.
Ouais, c'est ça. <c'est... rire>
Mais voilà, Pablo, ou Amazer, je sais pas si t'avais encore...
Pas énormément de trucs à dire, à part que si t'aimes ta clique, je sais pas si vous êtes trop passé dessus vu que c'est un morceau bonus. Avec le 113. Oh là là.
Et bien,
oh là,
OK.
Incroyable.
Ouais, j'ai écouté.
Et puis ouais, bien évidemment le gros hit, le classique ultime, la loi du point final,
ouais,
moi, qui est mon morceau préféré.
Je capte.
Voilà.
Alors moi du coup, je vais un peu rejoindre Maël. Pour moi, c'est genre c'est un des albums qui m'a le plus choqué dans ma vie, que j'ai écouté en termes d'écriture, en termes d'ambiance. Il m'a traumatisé cet album-là. C'est un de mes albums, je pense, préférés de l'histoire, quoi, du rap français en tout cas. Et je trouve ça intéressant en plus quand tu le remets en contexte, c'est-à-dire que à ce moment-là, donc pour ceux qui ne savent pas, Okusmo il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Time Bomb, qui est un peu le collectif qui a ramené la technique, on va dire, dans le rap français, avec vraiment ce truc de multisyllabique, de rimes de fou furieux, tout ça machin. Donc c'est un collectif avec que des monstres dedans, et notamment Il et Cassidy des X-Men, Ify, Pete Bacardi, Lunatic bien sûr avec Booba et Ali. Et Okusmo, c'est un peu, je crois, alors peut-être avec Pete la même année, le premier à sortir son album solo, en fait. Et il faut se dire que le mec pond à un truc aussi mature à 23 ans. Faut se rendre compte un peu de la dinguerie quand même que le mec, je crois que c'est bien 23 ans qu'il a. C'est absolument dingue. Enfin, c'est un album, tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est un album de cinquantenaire, tu vois. Un truc réfléchi, un mec qui a vécu 10 000 trucs dans sa vie, et en fait, pas du tout, quoi. Et c'est fou de maturité, en fait. Rien que ça, et en plus, et c'est ça qui fera le succès finalement de cet album là c'est qu'en fait il allie et qui fait qu'il marche, que ses albums d'après seront peut-être moins alors il y a des putains d'albums après, hein, mais moins comment dire, marquants. C'est qu'en fait là il allie tout le côté technique de Time Bomb, c'est-à-dire que c'est irréprochable niveau rime, niveau sur la forme, et en même temps il a un fond de bâtard où le mec est à 500 ans d'avance sur tout le monde, et c'est ce mix qui fait que c'est absolument dingue. Et en fait au-delà des textes, moi je trouve que c'est surtout l'interprétation sur ce disque qui est phénoménale. C'est sans en faire trop, hein, mais on sent qu'il incarne ces textes, il y a un morceau où sa langue fourche, je crois que c'est dans Peur Noir, et en fait tu le sens vraiment engagé dans ce qu'il dit. Il se reprend, il fait, tu vois, je sais même pas si c'était préparé, et si c'est préparé, c'est trop bien fait, quoi.
Je pense que c'était pas préparé, mais comment il réenchaîne, ouais, sur la phrase d'après et tout, genre,
c'est bluffant.
Mais ouais, je pense que c'était pas fait exprès, parce que tu sais, après t'as une mesure à vide et après c'est refrain, genre.
Exactement. Et je crois que c'est dans ce morceau là mais par exemple, moi il y a une rime qui me choque toujours. Il dit: mes crises lancinantes, sentiments en ciment, sinon dans 6 ans on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. Enfin, c'est, je trouve ça, enfin, magnifique comment il est, tout l'album est fourmi de ça, et c'est pas de la branlette, c'est vraiment à chaque fois il y a quelque chose à dire derrière, c'est pas du 1995 tout ça. Et après voilà, pour venir sur quelques morceaux que j'aime bien, il y a Vision de vie, je trouve qu'il donne direct le ton de l'album, où on rentre dans le sombre, le noir, où il décrit finalement le noir de l'homme, où il a envie de décrypter tous ses vices, sur tous ses angles un peu. Après moi je suis moins fan des storytelling, vous avez beaucoup pris Hitman et l'autre, moins, parce que c'est pas là où je le trouve le plus intéressant, et il me perd un peu, alors que par exemple j'adore Pulp Fiction avec Booba, hein, mais je sais pas, sur l'album je trouve que ça a pas trop sa place. Keep Your Nuit, qui illustre l'égoïsme de l'espèce humaine, L'Enfant Seul, qui est vraiment l'ultime classique de l'album, qui est vraiment un son terriblement bien écrit, terriblement technique, et surtout qui est d'une universalité totale, et c'est ça qui est dingue, c'est que ça touche vraiment tout le monde. 24 heures à vivre, c'est également un des meilleurs morceaux, on l'a dit, le cast, le concept, je vais pas revenir dessus. Le jour où tu partiras, il décrit également magnifiquement la perditude un peu d'une relation. Moi perso, le mensongeur, j'aime beaucoup. Alors je suis d'accord qu'il a rien à foutre là, c'est absolument pas sa place. Bah, c'est comme histoire de, je sais plus c'est quoi l'autre son un peu assez sacré samedi soir, qui est un peu un son un peu plus léger et tout. Tu te dis, mais pareil, c'est un gloobie-boulga de trucs. Tu fais, mais pourquoi c'est là machin. Mais je trouve qu'en single radio, je trouve ça trop bien. Tu le Eclipse, je l'écoute en mode playlist d'été, j'adore. Et la loi du point final, qui est pour moi je m'en suis jamais remis. L'arrivée de Lino, le coup des couilles des élus FN, enfin bon, c'est génial. Genre c'est vraiment je trouve que c'est le meilleur featuring de l'histoire du rap français. Enfin je trouve l'alchimie entre les deux, le fait qu'il y ait pas de refrain à la fin, que ça se coupe brut et tout. C'est trop fou. Et voilà. Bref, je pense pratiquement que du bien de cet album-là, même si je suis d'accord que son gros défaut, c'est juste qu'il est bordélique, qu'il a plein d'idées et qu'il monte. Mais malgré le fait qu'il soit bordélique, il est quand même dingue, en fait.
Ouais, je suis
c'est
bien d'accord.
C'est ça qui est fou, quoi.
Je suis bien d'accord avec toi, mais du coup, tu mettrais combien, mec ?
Très bonne transition. En vrai, c'est compliqué. Bref, 19, je crois.
Bah, moi, je pense que je mettrais... Je mettrai un 18, hein, parce que ouais, c'est un bordel, quoi.
Ouais, c'est un bordel.
Avec toi, c'est un gloubi-boulet qui marche un peu, mais...
Ouais. Mais moi, j'arrive à passer outre, en fait.
Ouais,
genre, là, pour moi, c'est un défaut, mais qui... je minimise, quoi.
Mais ouais, bah, un 18, pour moi, ce sera ça.
Moi, je crois que je vais partir sur un petit 17.
Ok.
Et aussi, je voulais noter un truc qui... Ouais. Qui m'a un peu sauté aux oreilles. C'est que, genre, le côté New York... On le retrouve beaucoup moins que, tu vois, sur les sons de Lunatic ou quoi.
Mmh, ouais, bien sûr.
Je trouve
ouais.
que ce côté, bah ouais, musique new-yorkaise, Mobb Deep et tout, qu'on retrouve énormément chez le Time Bomb et tout, qui est un peu la base de leur musique, je trouve que là, il a réussi à franciser tout ça
ouais,
incroyablement
ouais.
bien.
Enfin, il a trouvé un angle où il est c'est différent.
Ouais.
Je sais pas comment dire parce qu'en soi ça reste de la musique enfin de la boom bap un peu sombre, un peu mystérieuse, mais bah, je sais pas comment dire son son est différent.
Il y a plus de trucs un peu plus organiques.
Oui, c'est peut-être ça ouais.
L'utilisation des FX et tout qui vient nous franciser tout ça.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
mais j'ai trouvé que enfin ça m'a choqué un peu, tu vois, parce que je me disais bah ils posent tous sur God Part 3 reprod fois 1000 quoi.
Ouais.
Mais non, en fait. Du coup, voilà.
Ok. Et du coup, 17 pour toi ?
Ouais, 17.
Ok. Bah écoutez, on va conclure magnifiquement bien cette émission avec un classique unanimement salué par nos trois critiques. Merci à Mazir. Merci Maël pour cette émission.
Merci à toi.
On se retrouve
oui,
dans deux mois pour un nouveau thème surprise, un nouveau Commencer Loin. Sur ce, l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et on vous dit à dans deux mois. La bise.
Bisous.
Tchuss.